RFI 6h à Paris et à Varsovie, 2h de moins en temps universel. L'heure d'un nouveau journal avec vous, Jeanne Bartoli. Bonjour Jeanne.
Bonjour Nemo et bonjour à tous. Dans ce journal, quelle vision de l'Europe, de l'avortement, quelle position aussi face à la Russie? Voilà certaines des questions qui ont agité les campagnes présidentielles en Roumanie et en Pologne. Jour de vote dans les deux pays. En Pologne, c'est le premier tour de la présidentielle et les libéraux espèrent arriver en tête pour éviter une cohabitation avec les ultra-conservateurs. Nous sommes à Varsovie dans un instant. Le duo Friedrich Merz et Giorgia Meloni sur le même tempo hier à Rome, notamment sur la question de l'immigration, récit dans ce journal. Aux États-Unis, une bombe a explosé devant une clinique spécialisée dans la procréation médicalement assistée. En Californie, il y a un mort. Le FBI parle déjà d'attaque terroriste. On parle aussi de la réforme de la police sur les rails en République démocratique du Congo. Et puis on reviendra sur le décès du rappeur français Wayne Renoir, plus gros vendeur de disques en France en 2023 et en 2024. Il est décédé brutalement à l'âge de 31 ans. En Pologne, les bureaux de vote ouvrent dans une heure tout juste. Le premier tour de la présidentielle devrait se jouer aujourd'hui entre le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, le candidat du Parti libéral au pouvoir, et Karol Nawrocki, le candidat du PiS, parti ultra-conservateur. L'extrême droite pourrait-elle opérer une poussée, un scrutin qui va déterminer les marges de manœuvre du gouvernement libéral de Donald Tusk? Les précisions à Varsovie avec Daniel Valou.
Pour le camp libéral, s'emparer de la présidence permettrait d'en finir avec une cohabitation qui l'empêche depuis 2 ans de mener les réformes promises à ses électeurs. Et c'est pour cette raison que Claudia votera ce dimanche pour le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, le candidat de la plateforme civique.
Je pense que cela facilitera l'adoption des lois car depuis 2 ans, le président Duda freinait les lois ou les bloquait avec son droit de veto. Même si elles pouvaient être positives pour la société, il le faisait juste pour s'opposer aux libéraux.
Une défaite du maire de Varsovie serait un échec majeur pour les libéraux polonais et pour le Premier ministre Donald Tusk. Ce serait également sans doute le prélude d'un retour au pouvoir du Parti conservateur. Un scénario cauchemar pour cet habitant de Varsovie.
Ce serait une tragédie. Il pourrait contrôler le système judiciaire, toutes les institutions, et ce serait la fin de la démocratie. Si les conservateurs reviennent au pouvoir, il vaudra mieux quitter le pays.
Pour la coalition libérale et pro-européenne qui s'est emparée du pouvoir en 2023, cette élection présidentielle aura donc une importance majeure. Une victoire serait synonyme de coup d'accélérateur pour les réformes, une défaite de coup d'arrêt jusqu'aux prochaines législatives prévues dans 2 ans. Daniel Valot, Varsovie RFI.
Un vote crucial donc en Pologne, notamment pour ce qui est du droit à l'avortement et du respect des personnes LGBTQIA+. Lui est régulièrement présenté comme le Donald Trump roumain. George Simeon, le candidat d'extrême droite à la présidentielle en Roumanie. Second tour aujourd'hui. Il fait face au maire de Bucarest, Nico Șurdan. On suivra ce vote aujourd'hui sur RFI. On reste en Europe où les deux dirigeants ont affiché hier à Rome leur bonne entente. La présidente du Conseil des ministres italiens, Giorgia Meloni, recevait le chancelier allemand, Friedrich Merz. À Lenir, ils ont affiché, lors d'une conférence de presse conjointe, leur entente sur plusieurs dossiers.
Giorgia Meloni et Friedrich Merz ont affirmé que l'Italie et l'Allemagne sont des partenaires stratégiques indispensables. Les deux dirigeants souhaitent notamment relancer la compétitivité des industries, en particulier dans le secteur automobile, et estiment, je cite, qu'il faut remédier aux conséquences dramatiques de la transition écologique pour éviter un désert industriel. Autre thème au cœur de leurs ambitions communes, une lutte plus incisive contre l'immigration illégale. Écoutons la première ministre italienne.
Je constate une très grande entente avec le chancelier Merz pour consolider le changement d'approche en Europe, avec comme priorité la lutte contre le trafic d'êtres humains, la défense des frontières, le renforcement des expulsions et une coopération d'égal à égal avec des pays africains, des pays d'origine ou de transit.
Concernant les grandes questions internationales, Meloni et Merz ont souligné leur même volonté pour aboutir à une paix juste et durable en Ukraine, leur amitié avec Israël, mais aussi leur préoccupation croissante face à la situation humanitaire à Gaza. Anne Lenir, Rome, RFI.
Et Giorgia Meloni a également rencontré hier le président de la République libanaise, Joseph Aoun, et le premier ministre canadien, Mark Carney. Frédéric Merz et Giorgia Meloni qui ont évoqué le conflit à Gaza. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, s'est entretenu hier pour la deuxième fois en trois jours avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, sur la situation dans la bande de Gaza. C'est ce que fait savoir le département d'État. Les États-Unis, où une explosion a eu lieu il y a quelques heures devant une clinique spécialisée dans la procréation médicalement assistée. Ça s'est passé en Californie, à Palm Springs, à l'est de Los Angeles. Le FBI qualifie l'explosion de terroriste. La façade de la clinique a été soufflée. Le maire de la ville a évoqué une bombe dans ou près d'un véhicule garé sur le parking du bâtiment. Il y a un mort. On ne connaît pas encore l'identité de la personne décédée. Et puis à New York, cette fois, un trois-mâts de la marine mexicaine, le Cuauhtémoc, a heurté cette nuit le pont de Brooklyn. Le navire école de la marine mexicaine s'est encastré violemment sous la structure de l'ouvrage. Il y a 22 blessés, dont 3 dans un état grave. Direction à présent la République démocratique du Congo. La réforme de la police nationale va-t-elle enfin être concrétisée ? Le gouvernement a présenté un projet de loi ambitieux pour refonder une institution souvent pointée du doigt pour des abus et une répartition inégale des effectifs sur le territoire. Le texte défendu vendredi à l'Assemblée nationale par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, prévoit un programme de réforme étalé sur 5 ans jusqu'en 2029. Il nécessitera la mobilisation de moyens considérables. Précision avec Patient Ligaudy.
2 milliards 300 millions de dollars sur 5 ans. C'est ce que prévoit le gouvernement congolais pour réformer la police nationale. 3 priorités sont mises en avant dans ce programme. La première, c'est la professionnalisation. Elle absorbe plus de 72% du budget. Cela comprend le recrutement et la formation de 90 000 policiers. Parmi eux, des unités d'intervention, mais aussi des policiers de proximité. Un besoin urgent dans un pays confronté à la montée des gangs urbains. Deuxième priorité, le renforcement du cadre institutionnel. Autrement dit, poser les bases d'une police mieux organisée avec des structures solides et cohérentes. Ce volet représente un peu plus d'un quart du budget, environ 600 millions de dollars. Enfin, un dernier axe porte sur le dialogue entre la police et la population. Il pèse peu dans l'ensemble, presque 3% du budget, soit un peu plus de 50 millions de dollars. Le plan prévoit aussi la mise à la retraite de 10 000 policiers d'ici à 2028, la construction ou la réhabilitation d'infrastructures, et un investissement massif dans les équipements. Rien que pour cela, près $1 milliard sont programmés.
Et les précisions de Patient Ligaudy. C'est une nouvelle étape dans l'examen de la proposition de loi sur la fin de vie en France. Un texte aussi sensible qu'attendu après l'adoption du premier volet sur les soins palliatifs cette semaine. Les députés se penchent depuis vendredi sur le deuxième volet du texte, celui qui divise le plus. Grégory Lesca, les députés ont adopté hier l'article 2 qui instaure un droit à l'aide à mourir.
C'est une première victoire pour les partisans du texte. Les élus approuvent donc la possibilité pour une personne qui en exprime la demande d'avoir recours à une substance létale, autrement dit, de choisir de mourir. Mais derrière cette définition se cache un intense débat. Qui a la responsabilité de donner la mort ? La version adoptée en commission le 2 mai laissait le choix au patient. Soit il s'administrait lui-même la substance, soit il demandait à un médecin. Mais une partie du corps médical s'y opposait. Plusieurs députés estimaient eux aussi qu'il s'agissait d'un point de rupture de l'équilibre du texte. Le gouvernement a donc introduit un amendement, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, estimant que l'aide à mourir demeure un acte personnel et que le dernier acte doit appartenir à l'individu. En l'occurrence, l'auto-administration doit être la règle. Amendement approuvé ce samedi par 75 voix contre 41. Signe de l'extrême sensibilité du sujet, les partis n'ont pas donné de consigne de vote. Restent encore de nombreux points de crispation et autant de débats passionnés. Qui peut recourir à ce droit ? Sous quelles conditions ? Quel délai de réflexion ? L'examen du texte doit encore durer une semaine. Le vote final aura lieu le 27 mai.
Les précisions de Grégory Lesca. Ce sera dans 4 heures tout juste maintenant à Rome, la messe inaugurale du pontificat du nouveau pape Léon XIV, en présence de dizaines de milliers de fidèles et de dirigeants étrangers, dont le vice-président américain J.D. Vance. On va y revenir sur cette messe inaugurale juste après ce journal. ces deux dernières années, il était le plus gros vendeur de disques en France. Le rappeur français Wai Renoy est décédé brutalement hier à l'âge de 31 ans. De nombreuses réactions après cette mort soudaine. Ravi de t'avoir connu, mon ami, repose en paix, a publié sur Instagram l'artiste PLK. La chanteuse Aya Nakamura a également réagi. Repose en paix, mon gars, une nouvelle qui m'attriste, et courage aux proches, surtout sur sa carrière, sur le parcours de Wai Renoy. Écoutez, Case Loom, programmateur musical à RFI.
Wai Renoy, c'était un artiste très générationnel, très vite estampillé rappeur street, qui racontait aussi bien les problèmes de son quartier, la vie de la rue, un environnement qu'il connaissait, que ce soit les dealers, les excès, l'argent. Et il est arrivé au bon moment, au bon endroit, avec les bons titres. Et vraiment, ça a été capté très rapidement. C'était un artiste très, très générationnel.
Un artiste très discret hein, aussi, modeste, vous diriez ?
Paradoxalement, oui, très discret. Il ne voulait pas parler de lui en dehors de ses chansons. Il en disait suffisamment dans ses chansons. Et il considérait qu'il n'avait pas à en dire plus.
Est-ce qu'il y a un titre en particulier, vous, qui vous a marqué ?
C'est dans Pétunia, quand il revendique son succès face aux critiques, sur son rap. Ce titre Pétunia m'a marqué pour le côté direct et sans concession de ce qu'il avait à dire.
Je suis plus très loin du soleil, jamais très loin de la côte. Je suis dans les caisses, dans toutes les oreilles. Business, plus rien de personnel.
C'était Case Loom, programmateur musical à RFI, qui revenait donc sur le décès du rappeur français Wai Renoy, décès brutal à l'âge de 31 ans. Allez, on finit ce journal par les sports, et c'était hier à l'Adidas Arena à Paris. Grande soirée de boxe avec en point d'orgue le retour en France de Tony Yoka, le champion olympique à Rio en 2016. N'avait plus combattu dans son pays depuis 2 ans, après 3 défaites traumatisantes. Entre temps, il s'est refait une santé et une confiance en Angleterre, et il était donc de retour hier, retour réussi, puisqu'il l'a emporté au point contre le russe Arslan Yaliev. Baptiste Leduc, le public français a retrouvé un Tony Yoka convaincant.
Vainqueur, et l'aventure se poursuit pour Tony Yoka.
À l'annonce de la décision, Tony Yoka est tombé dans les bras de son clan. Soulagé, heureux de gagner pour son retour au bercail après 2 ans d'exil, devant ses proches et un public qui ne l'a pas oublié, il savoure.
C'est motivant, forcément. Ça fait plaisir. En plus, ils étaient au taquet. Donc ouais, franchement, ça m'a fait du bien de les retrouver, de voir tous les anciens copains, les anciens coachs qui étaient là à me soutenir. Ouais.
L'Adidas Arena a bel et bien vibré, bien chauffé par quelques chaos spectaculaires lors des combats précédents. Oussama et Amine ont vécu celui de Yoka très intensément.
Voilà, une belle droite de Tony.
Attention,
faut enchaîner.
Vas-y Tony.
Voilà,
oui,
belle droite de Tony.
La meilleure droite du round.
Et le plus fervent de la salle, c'était Brahim Asloum. Tout au bord du ring, l'ancien champion olympique et du monde semblait possédé. Et pour lui, Tony Yoka a réussi son comeback.
C'est son combat référence. C'est sur ce combat-là qu'il va arriver à reconstruire sa base, à pouvoir repartir sereinement. Psychologiquement, il sait qu'il est solide maintenant. Moi, j'ai jamais vu Tony prendre autant de coups, d'en donner autant dans un combat. Il a montré sa capacité de résilience.
Il n'est peut-être pas encore redevenu l'enfant chéri de la boxe française, mais Tony Yoka a bien lancé l'opération rachat.
Baptiste Leduc.
RFI, toute l'actualité.
Jeanne Bartoli.
Vous restez avec nous pendant 20 minutes. RFI vous informe. Nous serons au Pérou dans quelques minutes pour parler de la messe inaugurale du pontificat de Léon XIV. Léon XIV qui a également la nationalité péruvienne. On va parler également ce matin du rôle primordial de l'artillerie dans la guerre en Ukraine. Or, les systèmes d'artillerie à longue portée sont vieillissants en France. C'est dans ta nature, c'est la chronique de Florent Guignard sur la biodiversité, comme tous les dimanches. Et puis vivre ailleurs, ce sera avec Corinne Mondjou. Dans 4 heures tout juste, il prononcera la messe inaugurale de son pontificat à Rome, en présence de nombreuses personnalités, de dirigeants étrangers, dont le vice-président américain J.D. Vance. Léon XIV, dont le visage s'affiche un peu partout aujourd'hui, à Chiclayo, au Pérou, un diocèse où Robert Francis Prévost a œuvré pendant de très nombreuses années. Reportage sur place de notre correspondant Martin Chabal.
Tout le monde connaissait le père Robert à Chiclayo. Celle qui était connue comme la ville de l'amitié est maintenant rebaptisée la ville du pape Léon XIV. Impossible de passer à côté de cette information, son visage a été affiché partout. À Chiclayo, chacun a son souvenir avec celui qui est désormais pape. Nino Onofré se rappelle des moments passés à l'église.
Je l'ai rencontré juste ici. Il donnait la bénédiction après la messe. Nous nous approchions tous de lui pour recevoir sa bénédiction. Chiclayo est une ville très catholique.
Rocio, elle, est venue avec des photos devant cette grande cathédrale couleur pastel construite d'après les plans et les dessins de Gustave Eiffel.
Regarde, là, tu as maman, et là, c'est le pape. Sur celle-là, il y a ses petits-enfants, ça c'est mon fils, à côté du pape.
En 10 ans, Robert Francis Prévost aura marqué les esprits ici. Tous se souviennent d'un homme proche de ses fidèles et humble. Pour Nino Onofré, Chiclayo a profondément marqué le pape et en a fait l'homme qu'il est aujourd'hui.
Ici, on dit que le peuple de Chiclayo a 3 caractéristiques. Déjà, il est très aimable, généreux et joyeux, comme le pape. La deuxième chose, c'est notre cuisine, ancestrale et délicieuse. Et enfin, notre culture.
Les Péruviens sont très fiers de leur gastronomie et tous les Chiclayanos sont une anecdote culinaire avec le pape. Si certains ont partagé leur pain avec lui dans son restaurant préféré à côté de la cathédrale, Nino se souvient de son petit péché mignon.
Le pape allait souvent manger un gâteau à la poire à la plage. Maintenant, il l'appelle le gâteau du pape. Tu vas là-bas, tu commandes ça, et tu as le gâteau à la poire préféré du pape.
Devant la cathédrale de Chiclayo, on a placardé des affiches sur Léon XIV, notamment avec son profil. Il est écrit qu'il est connu pour sa nature affable, modérée et pastorale. Il combine le pragmatisme américain avec la sensibilité latino-américaine forgée au Pérou. Et après, on parle des langues qu'il domine. Il y a bien sûr l'anglais, l'espagnol, l'italien, le français, le portugais. Et il y a écrit aussi le quechua, très important ici quand on habite au Pérou.
Cette élection est vécue par certains comme une lueur d'espoir dans une situation politique nationale très compliquée. La courbe de popularité de la présidente Dina Boluarte frôle les 0% dans tout le Pérou. Antonio, venu célébrer Léon XIV dans une messe en plein air en l'honneur du souverain pontife, espère que ça pourra faire changer les choses.
Il connaît notre réalité. Il a déjà critiqué l'ex-président Fujimori. Il a soutenu les manifestations contre le gouvernement. Donc pour nous, c'est une bonne nouvelle.
Parmi la foule réunie sur la place principale de Chiclayo, quelques fidèles se permettent de croire en une visite du pape dans son diocèse d'origine. Et un voyage pontifical avant l'élection présidentielle prévue l'an prochain pourrait influencer les sondages. Martin Chabal, Lima, RFI.
Il a annoncé qu'il parlerait demain par téléphone avec son homologue russe, Vladimir Poutine, pour mettre fin au bain de sang en Ukraine. Déclaration de Donald Trump hier soir, les Américains, à la manœuvre diplomatique au lendemain des premiers pour parler de paix entre Ukrainiens et Russes depuis 2022. À Istanbul, en Turquie, la guerre en Ukraine, on en parle ce matin dans la chronique Ligne de défense et notamment du rôle primordial de l'artillerie dans cette guerre. L'artillerie qui permet de frapper loin de la ligne de front en l'absence de maîtrise du ciel. Or, les systèmes d'artillerie à longue portée sont vieillissants en France, comme le révèle une mission d'information menée par l'Assemblée nationale. Franck Alexandre.
Un trou capacitaire est à redouter, disent les députés. Jusqu'à présent, les feux dans la profondeur étaient l'apanage de l'armée de l'air. Mais la démocratisation des défenses antiaériennes fait désormais planer un véritable doute sur les chances de l'aviation à pouvoir franchir les bulles de déni d'accès. Pour s'affranchir de ces barrières, l'artillerie roquette est donc redevenue centrale, souligne Vincent Touré, chercheur à l'Université de Montréal.
On a besoin à la fois d'une puissance de feu dans la profondeur qui ne soit pas aérienne, mais en plus de ça, on a besoin d'une puissance de feu qui soit en fait beaucoup plus cheap, ou du moins qui a des effets de neutralisation qui sont plus vastes. Tout notre modèle quand même depuis la guerre froide, c'est comment on arrête des chars russes. On passe là à 3-4 cibles bien identifiées, à une centaine de fantassins qui courent dans tous les sens. Maintenant, on le voit en plus sur des motos, etc. Jamais on a le volume de feu pour traiter ça. Et donc c'est pour ça en fait qu'on revient à une logique roquette.
Armé par le 1er régiment d'artillerie de Belfort, les 9 derniers systèmes LRU pour lance-roquettes unitaires arriveront en fin de vie en 2027. Cette faiblesse, Turgis et Gaillard l'a identifiée il y a 2 ans. En mode agile, cette entreprise de taille intermédiaire vient donc proposer un système appelé Foudre. Turgis et Gaillard s'est déjà fait remarquer avec la ROC, un prototype de drone de reconnaissance et d'attaque longue distance, rappelle la présidente Fanny Turgis.
En présentant à la fois notre drone à ROC et également ce lance-roquette qui est sorti très rapidement, on veut montrer qu'on a la capacité de pouvoir aller faire de la reconnaissance avec un système aérien, mais on a également développé la capacité de faire de la frappe dans la profondeur et toutes ces plateformes peuvent communiquer entre elles.
Deux consortiums, Safran MBDA d'un côté, Thales Ariane Group de l'autre, développent également des projets de systèmes d'artillerie roquettes. Et si l'un des projets n'aboutit pas, les armées seront contraintes d'acheter ce matériel sur étagère et à l'étranger, alerte le député Jean-Louis Thieriot.
La plupart des pays européens ont déjà passé des commandes, que ce soit d'HIMARS, de Pulse ou de les Polonais qui ont acheté coréens. Ça veut dire que les chances de succès commercial sont limitées. Donc, faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui est stratégique? C'est d'être capable de produire de la roquette sur le territoire national, éventuellement sous licence. Qu'est-ce qui l'est moins? C'est le châssis, puisque ça, il n'y a aucun saut technologique dedans.
La roquette n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de l'artillerie longue portée, rappelle Vincent Touré, et le chercheur de souligner qu'en Ukraine, les drones d'attaque longue distance ont prouvé leur efficacité à moindre coût.
Franck Alexandre, c'était Ligne de Défense sur RFI.
C'est dans ta nature.
La chronique de la biodiversité avec Florent Guignard. Comme tous les dimanches, Florent, vous nous parlez cette semaine des céphalopodes, les poulpes, les seiches ou encore les calamars, des invertébrés particulièrement intelligents.
C'est une expérience réalisée par le commandant Cousteau qui a révolutionné la compréhension des céphalopodes, cette famille de mollusques à laquelle appartient le poulpe. Un crabe est enfermé dans un bocal. La suite avec Laure Bono Ponticelli, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris.
Que fait le poulpe? Non seulement il voit qu'il y a un crabe, très bonne vision, il arrive à comprendre qu'il y a un couvercle et il arrive à trouver les moyens avec ses bras munis de ventouses pour ouvrir le bocal, c'est-à-dire tourner. Donc quand les scientifiques se sont aperçus de ça, ils se sont dit « Ah là là, mais en fait les bêtes, elles ont un cerveau qui pouvait éventuellement correspondre au nôtre et comme nous on est intelligents, on s'est dit, ils sont donc intelligents. »
Oui, les poulpes ou les pieuvres, c'est pareil, sont les invertébrés les plus intelligents, mais non, ils n'ont pas 9 cerveaux, c'est une idée reçue.
Elles ont un gros cerveau, et puis elles ont des espèces de petits amas de cellules nerveuses à la base de chacun des bras. Et il semblerait qu'il y ait malgré tout une certaine autonomie de ces mini-centrales nerveuses qui pourraient commander les bras indépendamment du cerveau.
C'est aussi ce cerveau qui commande l'incroyable capacité des poulpes à changer de texture et de couleur pour se fondre dans le paysage en 1/1000 de seconde, Laure Bono Ponticelli.
Ils ont dans leur peau un très grand nombre de cellules qui sont responsables de ces changements. Et quand il y a un ordre qui est donné par le cerveau, à la vitesse de l'influx nerveux, si rapide qu'on ne le voit pas à l'œil nu. Tout ça est interconnecté et fait que l'animal va complètement disparaître aux yeux des prédateurs. Et puis aux yeux des proies aussi.
Jamais Madame Irma n'avait imaginé qu'un poulpe lui ferait de la concurrence.
Vous vous souvenez sûrement de Paul le Poulpe, champion des pronostics en foot dans son aquarium. Il choisissait presque toujours le drapeau du futur vainqueur, mais ici, pas d'intelligence ni de compétences sportives. Non, c'était juste le hasard. Les poulpes ne voient pas les couleurs.
Je suis bizarre et marrant.
Tu es le poulpe bluffant.
Je suis bizarre et marrant.
Tu es bizarre et marrant.
De toi, ça te...
La question de la semaine.
L'hygiène est-elle le propre de l'homme ?
Ben non, c'est ce qu'on vient encore de découvrir chez l'un de nos cousins les plus proches, le chimpanzé. La toilette intime n'est pas l'apanage des humains. Des scientifiques ont observé en Ouganda des chimpanzés s'essuyer les parties génitales avec une feuille après un rapport sexuel. Et après la grosse commission, les chimpanzés s'essuient les fesses. Parce que comme le dit le proverbe, quand le singe veut monter au cocotier, il faut qu'il ait le cul propre.
Florent Guignard, c'est dans ta nature et c'est tous les dimanches sur RFI.
Vivre ailleurs.
Et depuis plus de 3 ans, elle tente de sensibiliser l'opinion aux Émirats à la question de la transplantation d'organes. Elle s'appelle Nathalie Graal, expatriée à Dubaï depuis maintenant 16 ans. En 2022, elle a perdu son fils Vigo, prodige du golf, décédé brutalement à l'âge de 17 ans. Le don de ses organes a permis de sauver plusieurs vies. Or, la greffe d'organes est une pratique récente et mal connue aux Émirats. Nathalie Graal est au micro de Corinne Mandjou.
Le président du programme national des dons d'organes m'a demandé d'être ambassadrice des dons d'organes pour les Émirats. Après le décès de notre fils Vigo qui avait 17 ans et qui est décédé il y a 3 ans à Dubaï.
Qu'est-ce qui s'est passé à la suite du décès de votre fils ?
Vigo, qui était champion de golf des Émirats, était en très bonne santé. Un jour, il revient, il me dit « je ne sens plus ma main, je ne sens plus mes lèvres et mon bras » et il s'est écroulé en mort cérébrale. Dans les Émirats, les dons d'organes sont assez récents comparés à la France. Après ce drame, j'en ai fait un combat. Ce combat est devenu une révolution nationale parce que j'ai fait 60 conférences, j'ai fait 5 ministères dans les Émirats, la plupart des hôpitaux, partagé cette histoire avec le personnel hospitalier. J'ai fait l'université de médecine à Abu Dhabi aussi. Vigo rayonne partout, je reviens de Saoudi parce que le cœur de Vigo est dans une femme de 27 ans en Saoudi. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de transplantation de cœur dans les Émirats. Ils avaient un accord avec des autres pays. Donc les poumons et le cœur de Vigo sont en Saoudi. Ils ont fait un mini-film sur Vigo. C'est sur leur site qui passe partout où ils vont dans les conférences internationales. Ça a augmenté le nombre de donneurs dans les Émirats. Et ça, pour moi, c'est une petite graine de joie. Le nom de Vigo passe partout. Il y a une académie de golf qui porte son nom. Il y a un banc, des trophées de golf partout. Donc son nom est connu.
Combien de ces organes avez-vous donné et combien de vies sauvées?
6 organes, 5 vies de nationalités différentes. Pour moi, c'est important de soutenir dans mon malheur les avancées médicales dans les Émirats, mais aussi de représenter la France avec ses valeurs de solidarité et de fraternité. Il y a 20 000 Français à Dubaï, mais bon, ça touche tout le monde. Il y a un livre qui va apparaître en France aussi, bientôt, sur l'impact sur les dons d'organes. C'est aussi pour toucher tout le monde. Et ça devrait être publié cette année. Ce sera vraiment le summum. Je suis tellement contente pour Vigo qui continue de briller partout. Je suis allée à Riyad, c'est la première fois que je mets mes pieds en Saoudi et j'ai été reçue comme une reine. Pour les dons d'organes, c'est pour moi un summum. Je suis remplie d'amour, voilà, c'est ça qui est important. Quand on donne aux autres, on reçoit.
Qu'est-ce qui, à votre avis, explique la réticence des populations de la région aux dons d'organes?
Pour moi, il y a beaucoup de questions. Je pense que c'est vraiment, vraiment important, l'éducation. À l'université de médecine, les étudiants m'ont posé des questions, mais comment vous avez fait pour dire oui, pour donner les organes? Et bien, je lui dis, mais moi, si on me demande de sauver des vies, je ne peux pas dire non. Il faut sensibiliser les gens. Il n'y a pas assez d'informations sur les dons d'organes. Le refus, c'est parce que c'est un manque d'informations.
Est-ce qu'il y a une question de religion qui empêche de donner les organes de quelqu'un qui ne vit plus?
Alors, la religion n'interdit pas de donner les organes. D'ailleurs, j'étais avec des imams à Fujairah, qui fait partie des Émirats. C'est pas interdit de sauver des vies. Il faut faire des campagnes de sensibilisation sur la valeur fondamentale des dons d'organes.
Nathalie Graal, au micro de Corinne Mandjou. C'était Vivre ailleurs. Comme chaque dimanche matin à cette heure-ci, on vous propose à présent d'écouter un extrait de l'émission L'Atelier des médias. Cette semaine, Steven Jambour reçoit Anne-Cécile Robert, journaliste au Monde, diplomatique et professeure à l'Institut de Relations Internationales. Son livre « La stratégie de l'émotion » vient d'être republié aux éditions québécoises Luxe. Elle y analyse l'omniprésence des émotions dans le traitement de l'information par certains médias.
Il est tout à fait normal que les journalistes utilisent le prisme émotionnel pour attirer l'attention et pour ouvrir un sujet qui peut être compliqué. Donc on rentre par l'émotion, comme ça on crée un espace d'attention et d'écoute et on peut poursuivre son sujet. Ce qui devient un problème pour notre métier de journaliste, c'est quand on reste sur le registre de l'émotion. C'est-à-dire qu'on se contente de décrire, de raconter, de pleurer, de souffrir. On le voit avec les faits divers tragiques. On va accompagner la victime, la famille de la victime. Mais on va pas forcément expliquer l'enchaînement des choses. Pourquoi ce fait divers a eu lieu? Pourquoi il s'est passé telle ou telle chose? Et quand on regarde les sommaires des journaux ou la construction des programmes de télévision, on voit que il y a de plus en plus de place accordée à l'émotion pure.
Y compris lorsque l'actualité ne s'y prête pas de prime abord.
Alors c'est l'un des problèmes que pose ce registre émotionnel, c'est que il prend la place de quelque chose. Quand vous décrivez d'une manière sensible un événement, quand vous vous centrez sur l'événement le plus sensible, ça prend forcément la place de quelque chose.
Anne-Cécile Robert, journaliste au Monde diplomatique, autrice de La stratégie de l'émotion aux éditions québécoises Luxe. Entretien complet dans l'atelier des médias. Ce sera tout à l'heure à 11h10, temps universel. Vous restez avec nous dans une minute, le journal avec Arthur Ponchelet.
BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Cette semaine, dans Ma Selecta, il y a des artistes qui, de la Palestine au Mozambique, chantent la résilience et l'affirmation de soi. Et puis dans l'histoire d'un live, l'un des derniers génies de l'industrie musicale, feu The Artist Prince.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
BPM.
Ce lundi sur RFI,
édition spéciale en direct de Bucarest.
Andréane Mellard.
Toute la journée, RFI sera en Roumanie ce lundi avec nos invités et nos envoyés spéciaux. On va analyser, on va décrypter les résultats des présidentielles en Roumanie, second tour, et en Pologne, premier tour, des scrutins cruciaux pour l'avenir de toute une région sur fond d'ingérence russe et de montée de l'extrême droite. Rendez-vous ce lundi dès 6h, temps universel sur RFI.